D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisqu'on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Donzy. Être écrivain n'est pas être cinéaste, être cinéaste n'est pas être écrivain. Ce sont des formes de talent différentes. Peu de bons écrivains ont donné de bons cinéastes et vice-versa. Orson Welles est un des meilleurs réalisateurs de cinéma du XXe siècle et il a écrit de médiocres livres. Son roman « Monsieur Arcadine » n'a rien à voir en qualité avec son film « Monsieur Arcadine ». Ou alors, on peut dire qu'il est si moyen que Welles aurait pu l'adapter et en faire un très bon film. Les adaptations de très bons livres font rarement, sinon jamais, de très bons films. Et c'est sans doute parce que les cinéastes qui les adaptent sont intimidés et n'osent pas, comme on dit, trahir. C'est un mot de chantage. Pour les obliger à être respectueux et raides et intimidés, ils n'osent rien. René Clair a été un charmant réalisateur et il a écrit un roman et un livre de nouvelles qui ne sont pas tout à fait charmants. Pierre Cast a été un réalisateur original et je me rappelle avoir, adolescent, bien peiné à lire un roman de lui sur l'architecte Nicolas Ledoux. En ce moment, Eugène Green est un cinéaste très fin et je pourrais faire longtemps l'éloge de la Sapiens, mais je le pourrais moins facilement à propos de ses romans. Loin de moi, l'idée d'une spécialisation des talents, je pense qu'on peut en avoir plusieurs. Et Victor Hugo, qui ne manquait pas plus de culot que de génie, se serait sans doute emparé d'une caméra pour réaliser de très grands films. Je crois me rappeler que Sacha Guitry, bon auteur de théâtre, n'a pas réalisé de mauvais films, que Cocteau, etc. Enfin, pas beaucoup de cas etc., mais suffisamment quand même. Et pour ne pas avoir l'air de laisser la meilleure part aux écrivains, je dois préciser que tous ceux qui se font cinéastes ne transportent pas leur talent dans le cinéma. Malaparte a réalisé un film, Le Christ interdit, qui m'a laissé, disons, dans l'état défini par son adjectif. Quant à Pasolini, je ne suis pas un partisan déchaîné de ses films et je préférerais toujours Théorème, le roman, un de ses meilleurs livres, à Théorème, le film, qui est pourtant un de ses meilleurs films. Enfin, il ne s'agit pas ici d'opposer les arts, mais d'essayer de comprendre comment leur fusion peut se produire. Les influences vont dans les deux sens. Je me demande ainsi...
Donne-moi une adresse.
Sauvage. Vous avez fait mal ?
Qu'est-ce que tu racontes ? Quand j'étais jeune, on m'appelait Maria Douceur.
Tenez, prenons d'une part un film dont raffole la réalisatrice de Secrets Professionnels, Clotilde Pivin, Razzia sur la chenouf.
Razzia sur la chenouf est un document inédit, unique, sensationnel sur le monde le plus secret qui soit.
Prenons d'autre part un court-métrage réalisé par un écrivain que j'aime beaucoup, le « Un chant d'amour » de Jean Genet. Eh bien, je me demande si, pour un chant d'amour où on voit un prisonnier faire une danse lascive dans sa cellule, Jean Genet ne s'est pas rappelé la scène de Boîte de nuit où, dans « Razzia sur la chenouf », un noir camé fait lui aussi une danse lascive. Le réalisateur de « Razzia sur la chenouf », c'est Henri Decoing. Ce cinéaste a eu un fils, ce fils est romancier. Qui pourrait mieux que lui répondre à mes interrogations ? Et donc, pour essayer de comprendre le secret professionnel des écrivains fils de cinéastes, je reçois pour en parler Didier Decoing, qui publie chez Stock un nouveau roman, Le Bureau des Jardins et des Étangs. Didier Decoing, votre père n'était pas de la toute première génération des réalisateurs de cinéma, mais il est tout de même né en 1890 et son premier long métrage, si je ne me trompe pas, Toboggan, date de 1933. Quelles étaient ses influences à lui qui, je crois, avait commencé comme journaliste sportif?
Oh, il a commencé comme champion de natation, comme organisateur de combats de boxe, comme pilote. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi le Tour de France en moto. Enfin, il avait fait un truc. Il avait vraiment des sujets d'inspiration en amont qui étaient très considérables. Papa a aussi été romancier. Il a écrit un très beau livre sur la boxe qui s'appelait 15 rounds.
Il avait été journaliste, n'est-ce pas,
sportif? Tout à fait, à l'auto. Il a écrit un autre roman qui s'appelle Le Flambeau dans la nuit, que moi j'aime beaucoup, sur la guerre sur les soldats survivants de la guerre de 14-18 et la façon dont on les traitait mal. Ils étaient portés, alors il racontait l'histoire comme ça. Il avait été témoin un jour devant chez Maxime ou je sais pas quoi, d'une voiture s'arrête, le portier de chez Maxime s'avance pour ouvrir la portière et on s'aperçoit que ce portier, il lui manquait une main.
C'est un mutilé de guerre.
Oui, c'est un mutilé de guerre.
Et c'est, pardonnez-moi, ces romans datent d'avant sa carrière de cinéaste?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je crois qu'il aurait bien continué si ça avait eu du succès, mais ça en a pas eu énormément. Il aimait beaucoup l'écriture. Moi, je suis devenu écrivain à cause de ça, d'ailleurs. Parce que je lui ai dit, enfin, un jour, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, etc. Je devais avoir 18, 19 ans. Et je lui ai dit, comme toi, papa, je voulais être cinéaste, je voulais faire pan. Et il m'a dit, ça, c'est une connerie. Tu te rends compte, moi, j'ai vécu un âge d'or du cinéma. Mais toi, tu vas aller tirer les cordons de sonnette, tu vas aller chez un producteur, tu vas dire, voilà, monsieur. Alors, mon film commence, c'est formidable, vous savez, c'est un porte-avions qui coule. Alors, le producteur, il va te prendre par la peau des fesses, il va te foutre dehors, ça va être beaucoup trop cher. Si, par contre, tu écris dans un roman, c'est un porte-avions qui coule, ça ne te coûte rien du tout, tu peux même en faire couler toute une escadre. Et je me dis, ça, c'est très, très malin, c'est comme ça que je suis. J'ai renoncé à dire moteur, action, à vous de jouer les enfants, et je suis devenu écrivain.
Est-ce que lui-même parlait de la période où il avait écrit, ou pas du tout? C'était une chose qu'il avait...
Non, c'est une chose qu'il avait fascinée. Vous savez, papa venait vraiment, quand je dis du quart-monde, s'il y a encore une échelle plus bas, il était totalement autodidacte. Il avait quitté l'école, on lui avait fait quitter l'école à l'âge de 8 ans.
Que faisaient vos grands-parents?
Ben, mes grands-parents, mon père avait eu un accident, était ouvrier, il avait eu un accident du travail, il était paralytique. Ma grand-mère, elle faisait des ménages, etc. Donc, vous vous imaginez c'est très Zola, hein, et donc, papa, à 8 ans, lui a dit, tu vas travailler. Donc, il allait livrer le lait dans les immeubles, tôt le matin, mais il savait ni lire ni écrire.
À Paris, il était parisien?
À Paris. Et c'est parce que il a voulu mordre dans la vie que bon, il est arrivé à il a mis un certain temps avant d'exister en tant qu'être civilisé, comme il disait lui-même.
Et c'était un grand lecteur?
C'était un passionné de lecture. Et il avait inventé une chose formidable, enfin pour moi enfant, c'était la bibliothèque aux rats. Elle courait le long de l'appartement. Dans les couloirs, absolument partout. Mais elle faisait quoi? Pas plus haut qu'une table basse. Ce qui fait que moi, je pouvais piquer tous les bouquins que je voulais. Et j'ai pris des séries noires, j'ai pris des machins érotiques, j'ai pris de tout, palier de jeûner. J'ai dû lire Le Miracle de la Rose, je devais avoir 9 ans.
Non, il n'y avait aucun contrôle.
Non, il n'y a aucun contrôle. J'ai rien compris à ce que je disais, je ne vous cache pas. Mais voilà, c'était formidable.
Donc c'était une éducation très libérale.
C'était une éducation, je dis toujours un peu côté livre de la jungle. Un papa, c'est un peu Mowgli, quoi. Enfin, moi, j'étais Mowgli, et lui, il était Balou, ou Sher Khan, ou Bagheera.
Et c'était, de sa part, c'était un libéralisme de père assez rare chez les pères. C'était politique. Est-ce que c'était un homme de gauche qui s'était dit, il faut que mon gamin soit pas élevé comme un bourgeois? Est-ce que...
Non, c'était, alors, politiquement parlant, oui, il était à gauche, ça c'est certain. Mais, c'était pas vraiment son problème de savoir ce que je penserais un jour sur le plan politique. Ce qu'il voulait, c'était que je me sente libre. Il voulait absolument... Lui n'avait pas eu une enfance heureuse. Hein, donc il voulait que ses gosses, c'est-à-dire mon demi-frère, ma sœur et moi, nous ayons une enfance heureuse. Et moi, il m'a fait une enfance de bonheur absolu. Parce que j'ai rêvé. J'ai rêvé pendant toute mon enfance. Il me racontait des histoires. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il faisait un film, il fallait qu'il vive la documentation du film à la maison. Il parlait de Razia sur la Schnouf. Il s'était pris comme conseiller technique l'ennemi public numéro un de l'époque, qui était Joatia. Qui était interdit de séjour, et qui venait travailler à la maison le soir, à partir de 23h, il sonnait, mais il était sur le palier avec le chapeau mou, l'imperméable, etc. Je me rappelle un soir, comme ça, il sonne, et j'étais pas couché, et papa dit, Joe, je te présente mon fils Didier, c'est Joe. Et moi, je dis, qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Et le monsieur, en question, me répond, je suis gangster, petit. Et comme je le croyais pas, il me sort son flingue qu'il avait sur lui.
Non. Et alors, vous avez eu une éducation littéraire très souple. Est-ce que vous avez eu une éducation cinématographique particulière? Est-ce qu'il vous amenait à la cinémathèque? Est-ce que...
Pas à la cinémathèque, mais tous les jeudis, quand il ne tournait pas. Quand il tournait, j'allais au studio. Et j'étais soumené de la caméra, comme j'étais petit, je tenais. Soumené de la caméra, je regardais ça avec fascination. Et quand il ne tournait pas, le jeudi, nous allions ensemble voir 2 films. Et c'était souvent des films américains. Alors c'était parfois des films qui n'étaient pas du tout pour mon âge, mais comme il me tenait par la main, personne ne lui posait de questions, et j'ai vu des films admirables comme ça. Surtout des séries noires et des comédies hollywoodiennes. Je me rappelle Doris Day, c'était Doris Day, Kim Novak, hein, c'était le genre de fille qui trouvait formidable. Et alors il m'expliquait les plans, pourquoi le type il avait fait un travelling à tel moment, pourquoi le montage était si rapide, et comment on faisait un montage rapide. Et c'est pour ça que je voulais faire la même chose.
Et vous avez assisté quand vous étiez petit, vous a amené dans une salle de montage, il vous a...
Bien sûr. Et puis surtout, j'ai eu très très vite une petite caméra 8 mm, un matériel de montage. On grattait les films à l'époque pour les coller. Et alors il m'engueulait parce que moi je faisais des films de première communion, quoi. Je filmais ma sœur, quand on a une caméra, c'est pas pour faire ça, c'est des conneries. Invente des scénarios, fais-moi une œuvre, fais-moi quelque chose. Alors j'en étais arrivé à faire des espèces de petits courts-métrages qui étaient très très ambitieux, beaucoup trop ambitieux, sur la guerre, etc. Après, j'avais fait le tour du monde en 80 jours, et j'avais accroché, ce qui m'intéressait, c'était le passage en ballon, et donc j'avais accroché un panier à linge à un pommier, et j'ai mis ma sœur dans le panier à linge, et elle faisait Phileas Fogg. Alors là, papa m'a dit, allez, il y a de la créativité, là, c'est pas mal.
Alors, lui-même a adapté des romans, en particulier deux romans de Simenon, Les Inconnus dans la maison avec Rému en 42, et La vérité sur Bébé Donge en 51.
C'est deux de ses meilleurs films.
Avec Daniel Darieux, qui avait été, je crois, son épouse. Le premier avec Clouzot pour scénariste et dialoguiste, et Maurice Auberger pour le second. Alors, tout le monde connaît Clouzot, mais Auberger, non. Dites-moi qui c'était.
Mais écoutez, moi, je ne l'ai pas connu, mais papa l'appréciait beaucoup.
Est-ce que votre père vous a jamais parlé de l'adaptation d'un roman? Est-ce que, comme ça, dans la conversation, il vous disait comment on fait? Voilà, j'ai un roman de Simenon, ce qu'il faut enlever, couper, parce que c'est très différent.
Non seulement il m'en parlait, mais il me montrait comment il faisait, parce qu'il travaillait beaucoup avec des béquets. Il coupait des pages dans son scénario et dans le livre. Il faisait des collages, un peu comme Proust, hein, comme il connaissait tous ces trucs. Et l'arme, les deux armes principales de papa, c'était une énorme paire de ciseaux de couturière, et c'était cette merveilleuse colle qui avait un goût d'amande et qu'on pouvait manger en léchant la petite palette.
Oui, il
montait déjà, il faisait déjà du montage sur texte imprimé.
Qu'est-ce que vous avez appris, Didier Decoin, en regardant, je ne veux pas dire en écoutant votre père, mais en regardant ses films? Et je veux dire, esthétiquement, qu'est-ce que ça vous a appris, les films de votre père?
L'ambiance. Moi, quand j'écris un roman, je commence par fixer une atmosphère, un lieu, un décor, etc. C'est exactement la même chose. Quand on arrivait au studio le jeudi, quand papa tournait, on arrivait sur le plateau, tout était éteint, il faisait allumer les lumières, et deux, trois ampoules de service, et le décor était là. Il n'y avait pas les acteurs, il n'y avait rien, il y avait juste le décor. Et il commençait à marcher au milieu de ce décor, alors il mettait il servait une petite boîte d'allumettes pour faire le cadre, il regardait, je vais me positionner là, il avançait comme ci, comme ça. Et c'était très très important pour lui, l'atmosphère qui était dans l'image. Ensuite, il se passionnait pour les comédiens. Surtout pour les comédiennes d'ailleurs, je veux dire. Mais c'était ça. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup servi. Je sais pas en bien ou en mal, mais je ne sais pas écrire si je n'ai pas un décor.
Ça veut dire que vous n'êtes pas de l'école qui serait, mettons, l'école de Diderot, où il n'y a pas de mise en place et on entre immédiatement
Ah oui, absolument pas. Non,
pensez qu'il faut entrer dans un livre comme dans un film?
C'est un besoin. C'est un besoin. Et quand je lis un livre, je sais que je l'apprécie d'autant plus que l'auteur me fait participer à son iconographie, enfin à l'image du livre.
Est-ce qu'il y a dans le cinéma en général des procédés, pour employer un mot auquel je ne crois beaucoup, mais employons-le, que vous auriez repris dans vos romans?
Le flashback. Le flashback, je ne sais pas si c'est une invention du cinéma, c'est plutôt une invention littéraire, le flashback. Mais c'est très très utilisé en cinéma. On parlait de La vérité sur Bébé Donge, c'est un film où le flashback est très important. Et moi, je m'en sers beaucoup, et je l'apprécie beaucoup dans les livres. Dès qu'un personnage commence à dire, alors tu sais, j'ai rencontré Charles et je lui ai dit, et on sait qu'on va savoir ce qu'il s'est dit. Ça, c'est passionnant, mais on a l'impression d'entrer dans le secret, dans l'intime de quelqu'un.
Et ce qu'il vous a montré du montage, ça vous a appris quelque chose? Est-ce que le montage d'un roman, c'est la même chose que le montage d'un film?
C'était pas du tout la même chose. C'était même, il me semblait que le montage du roman était assez figé, parce que l'outil pour... Bon, aujourd'hui, on a l'ordinateur. Et maintenant, je retrouve avec mon ordinateur les sensations du vrai montage. C'est-à-dire de pouvoir ripper, faire passer une séquence avant l'autre, pouvoir couper à l'intérieur, remettre si j'ai enlevé trop, etc. Mais quand j'en étais à la machine à écrire, ou pire encore au stylo bille, là, je pouvais pas vraiment faire de montage.
Nous allons maintenant entendre un extrait de Dortoir des Grandes d'Henri Decoin. C'est un film de 1953, adapté d'un roman par Stanislas André-Steman avec Jean Marais et Françoise Arnoul.
Le voilà, elle est là !
Thank you. pas parler, quoi.
Taisez-vous.
J'ai reconnu sa voix. Oh, c'est l'inspecteur.
Oh, là. C'est lui, c'est l'inspecteur. Mais j'ai voulu me rendre compte.
Monsieur l'inspecteur, vous pouvez me dire ce que tout ça signifie? Pouvez-vous m'expliquer les raisons de ce scandaleux affaire? Et vous, mademoiselle, recouchez-vous immédiatement. Et rentrez tout ce qui dépasse. À vous maintenant. Silence! Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites ici, à 11h du soir, chez des jeunes filles, et sans cravate, naturellement? Là, pouvez-vous entrer?
Par le balcon.
Comme un voleur?
Comme l'assassin. J'ai fait un test, il est réussi.
Ça, c'est le bouquet, il est content.
Oh, très content! L'assassin n'a pas pu entrer par la fenêtre.
Et après, il a pu entrer par la porte?
Oh non, pas plus par la porte que par la fenêtre. Vos pensionnaires ont le sommeil trop léger, les réflexes trop rapides. Pour qu'un étranger puisse faire deux pas dans le dortoir sans être signalé et massacré.
Taisez-vous, mademoiselle! Elles n'ont pas tort de rire.
Oh, ça, je sais. J'ai l'air un peu ridicule.
L'expression est faible. Si vous pouviez vous voir.
Oh, ça m'est complètement indifférent. On reviendra de rire.
Approchez, mesdames, approchez! Ce funambule a fait une découverte. Vous pensez que l'assassin est parmi nous?
Je ne l'ai pas encore dit.
Mais vous allez le dire. Vous en mourrez d'envie. Depuis votre arrivée, vous ne pensez qu'à ça. Et pourtant, votre chef pensait le contraire. Et le commissaire Broche, à côté de vous, c'est un génie. Mais non, monsieur peut faire du zèle. Mesdames, nous avons la cruelle infortune d'avoir affaire à un débutant. Monsieur apprend son métier dans les romans policiers et vient ensuite nous jouer les argousins d'opérette. Le détective au pensionnat.
Madame, dans mon métier, on n'a pas toujours le choix des moyens. Le détective au pensionnat vous présente ses hommages.
Didier Decoin, on vient d'entendre Dortoir des Grandes, et pendant que le son arrivait, je vous ai entendu avec un son un peu rêveur dire Dortoir des Grandes. Vous évoque quoi?
Ça m'évoque la première fois où j'ai découvert un travelling en extérieur. C'était sur le tournage, comme de bien entendu, et il y avait une voiture très très plate.
Vous aviez quel âge?
Oh mon Dieu, j'étais petit, 7 ou 8 ans. Peut-être, et j'étais sur cette plateforme avec, où il y a la caméra, le projecteur, etc. Et j'entendais papa dire, bon, qui dirigeait son film, et maman qui hurlait, chérie, va prendre froid le gamin, fais-le descendre tout de suite. Et j'étais heureux, je trouvais ça fabuleux. J'ai toujours trouvé que le cinéma, c'était des jouets de grandes personnes. Mon papa, il avait des jouets beaucoup plus intéressants que les miens. Beaucoup plus. Quand je le voyais au milieu d'un, en studio, le décor d'une ville, fausse ville, avec des fausses voitures qui étaient poussées par des machinaux, qui étaient derrière, avec une fausse pluie qui était faite avec des tuyaux d'arrosage, de faux bruits de tonnerre avec des tôles, etc., et qui criaient plus d'orage, plus d'éclairs, etc. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'amuse? C'est formidable. Moi, j'avais 3 soldats de plomb et un petit train électrique. C'était beaucoup moins drôle.
Mais vous continuez à vous amuser un peu de la même façon en écrivant des romans, non?
Je m'amuse furieusement.
Alors justement, dans votre dernier roman, c'est l'histoire de la veuve d'un pêcheur de carpes dans le Japon du XIIe siècle qui traverse le pays pour aller remettre 8 carpes au palais impérial. Alors une femme au Japon au XIIe siècle, on pense à Seisho Nagon, la dame de cour qui a écrit le remarquable note de chevet.
C'est vous avez fabuleux. Pensé à, hein? Je pense que si je n'avais pas lu Seisho Nagon, je n'aurais pas pu écrire ce livre.
Racontez-nous un peu ce que c'est Seisho Nagon.
Eh bien, elle prend des notes, choses détestables. Alors elle dit choses détestables, un hibou qui me réveille le matin, choses adorables, une pluie de pétales, de prunus, etc. Et ce qui est amusant, c'est que c'est la description de la vraie vie quotidienne. Elle se rend pas compte qu'elle nous donne un bilan de ce qu'est une journée à la cour impériale de Yankyo, qui était le nom que portait Kyoto à cette époque. Et c'est charmant parce qu'il n'y a aucune ambition littéraire dedans. Ce sont des notes.
C'est un registre, oui.
C'est un registre. Ce sont des notes de chevet.
Et vous avez pensé à ce livre en écrivant le vôtre, j'imagine, ou en tout cas ça a été une de vos sources de documentation.
C'était déjà de mes chouchous. C'est plus qu'une source de documentation. C'est un livre qui me fait rêver, parce que justement, il n'est pas fait du tout pour raconter une histoire, ni pour témoigner de quelque chose. C'est un truc totalement instinctif. On a l'impression qu'elle a écrit ça pour elle-même, ce qui est d'ailleurs très probablement le cas.
Et est-ce qu'à un moment ou l'autre de l'écriture de votre roman, Didier Decoin, vous avez pensé à un cinéaste japonais?
Kurosawa, évidemment, mais peut-être... Kurosawa, il y a le côté brillant et enlevé, etc. Qui me...
Oui, puis vous, c'est concentré sur un personnage, et lui, c'est très...
Bah, c'est une grande phrase.
Les masses, foules, oui.
Mais j'ai aussi pensé à Ozu, dont je n'ai jamais oublié le voyage à Tokyo, bien que ce soit du 1.33, noir et blanc, que ce soit assez intimiste, etc. Mais pour moi, c'est un cinéaste gigantesque, Ozu. Et je me disais que un livre comme ça, si jamais il avait pu exister avant et adapté par un cinéaste, j'aurais bien vu Ozu à la réalisation. Mais est-ce que les livres sont destinés à devenir des films? Je me pose toujours la question.
Est-ce que ça vous est arrivé?
Ça m'est arrivé. J'ai eu une immense satisfaction avec Lucas Bellevaux quand il a adapté « Est-ce ainsi que les femmes meurent ?» qui s'est appelé pour lui « 38 témoins ». Parce que le jour où il est venu me voir en me disant « J'ai envie d'adapter votre livre », je lui ai dit « Je suis très honoré, mais c'est infaisable. » Ça raconte l'histoire d'une fille qui, pendant 35 minutes, se fait poignarder. Je lui ai dit « Comment voulez-vous montrer ça à l'écran? Ça va être gore !» Il me dit « On verra absolument pas le meurtre. Ben, » je dis « Alors, ça va pas du tout ressembler à mon livre. Oh, ça va ressembler plus que ça. » Et il a trouvé une astuce. Pour moi, l'adaptation de ce livre est un cas d'école.
Quelle était l'astuce?
L'astuce consistait à ne rien montrer. Effectivement, le film commence, le meurtre est accompli, etc. Mais à montrer la reconstitution. D'ailleurs, à ne pas la montrer. On entend, on est dans un appartement. Il y a l'un des personnages qui est là. Et les flics, et ils disent, alors monsieur, on va vous faire entendre le cri qu'a poussé la victime. Et il y a une petite inspectrice de police qui est dans la rue, qu'on ne voit pas, qui se met à crier, un cri déchirant. Et on lui dit, c'était comme ça qu'a crié la victime. Non, plus fort, c'était pire que ça. Mademoiselle criait beaucoup plus fort. Et c'est génial, parce que on est bouleversé beaucoup plus que si on voyait un couteau s'enfoncer dans une poitrine. Mais je pense que c'est un très grand cinéaste, Lucas. J'ai pas vu le tout dernier film, mais je vais m'empresser de le faire. Mais quand j'avais vu des films qu'il avait fait avant, notamment sur l'enlèvement du Baron Empain, je pense que c'est un grand cinéaste.
Vous avez travaillé sur l'adaptation ou pas du tout?
Pas du tout, parce que je ne savais pas ce qu'il voulait faire. Je lui ai simplement dit, mon livre est à vous, vous en faites ce que vous voulez. Ma seule intervention a été, comme ça ne pouvait pas se tourner à New York, mais que le roman se passait à New York, a été de dire, j'ai une idée peut-être d'une ville qui pourrait ressembler avec des fenêtres alignées, derrière laquelle il y a 38 témoins, et j'ai dit tout de suite Le Havre. Et Lucas a foncé sur cette option-là. Mais c'est merveilleux de ne pas travailler sur une adaptation. Quand on
est-ce que vous en seriez capable d'adapter vous-même
non, 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 non. Parce que si je l'ai écrit comme ça, c'est pour que ce soit comme ça. Et si j'adaptais, j'aurais tout le temps des scrupules, me dire, ça c'est trop long, non, non. Et c'est tellement, quel cadeau quand on voit comment quelqu'un l'a lu. Dans le fond, c'est la joie qu'on aurait si on pouvait interviewer un lecteur et lui dire, alors, qu'est-ce que tu as pensé de mon livre? Raconte-moi ce que tu as vu dans ta tête pendant que tu lisais telle scène. Ben, c'est exactement le cadeau que vous fait le cinéaste quand il vous adapte un livre.
Je vais vous dire, pour moi, le Bureau des Jardins et des Étangs, en fait, ça devrait être un film muet parce que c'est un film, c'est pour moi un roman sur le silence.
Tout à fait. Tout est une belle définition, mais c'est vrai. Et un silence intérieur. Le monde fait du bruit autour de cette jeune personne qui marche vers la cité impériale avec ses carpes. D'ailleurs, la carpe, c'est pas tout à fait innocent, c'est quand même un emblème emblématique du silence, hein, muet comme une carpe. Et elle sait pas s'exprimer, elle est tellement, tellement primaire, cette petite, c'est ni lire, ni écrire, ni compter. Elle sait aimer, ce qui est déjà pas mal comme culture.
Alors, il y a une chose dans ce roman qui serait sûrement très difficile à faire au cinéma, c'est la scène à la mort de son mari, où elle a ce geste étrange que je vais vous demander de me décrire, d'embrasser une partie du corps de son mari.
Je ne sais pas si ce serait impossible.
Dites-moi ce que c'est d'abord, racontez-nous la scène.
Bon, elle embrasse le sexe de son mari, et elle lui trouve une consistance, si je puis dire, une froideur, une froidure, qui lui montre bien qu'il n'est plus vivant, ça. Peut-être qu'elle rêve quand même de reprovoquer une érection. C'est pas impossible. Mais depuis l'Empire des Sens, on recule devant rien. Hein. Je veux dire, on aurait très très bien pu refaire.
Oui, mais l'Empire des Sens, c'était précisément interdit aux moins de 18 ans. Et ça, vous pouvez le raconter dans un livre avec une délicatesse qui est plus compliquée au cinéma, non?
C'est vrai. C'est vrai. Au cinéma, il y a la violence de l'image qu'on prend pleine poire. Encore que moi, je suis difficilement choquable, donc...
Mais la commission de censure, oui.
Oui, la commission de censure, oui. Mais le livre est très sensuel, de la première à la dernière page. Il y a beaucoup de scènes où Miyuki, puisque tel est le nom de la petite, fait référence au corps de son mari, aux expériences sexuelles qu'ils ont eues ensemble. Parce que pour elle, c'est normal de faire l'amour. Je veux dire, pour nous aussi, c'est normal. Mais il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de tabou. Et c'est ça que j'ai aimé dans cette période du Japon, c'est l'absence de tabou.
Alors, Didier Decoing, il y a aussi, on parle de vous en tant qu'écrivain, fils de cinéaste. Le contraire existe, il y a des cinéastes fils d'écrivains, Satya Jitray, André Zulawski, Tavernier, Bernardo Bertolucci. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre eux et vous du point de vue esthétique? Est-ce que la filiation inverse a...
Ben Charles, vous me citez des très grands quand même, là. Hein, je veux dire, je suis plutôt chapeau bas devant ces personnages-là. Non, je pense que l'approche n'est pas tout à fait la même. Quand on est pétri d'images comme je l'ai été, on a une façon d'écrire qui est iconique. Hein. Eux, je pense que c'est différent. Mais j'en sais rien.
La représentation des écrivains au cinéma, Didier Decoin, je trouve ça en général assez comique. Par exemple, si on prend les frères Cohen, pour eux, on a l'impression que pour eux, un écrivain, c'est un vague raté alcoolique qui écrit un peu. C'est souvent ça.
Merci Zulawski, bien sûr. Mais
est-ce que vous trouvez pas ça un peu cliché, la représentation des personnages d'écrivains au cinéma?
Si, mais ça donne une certaine aura au fait d'être écrivain. Moi, souvent, je trouve ça plutôt sympathique. Non, parce que l'écrivain tâcheron, propre sur lui, etc., qui éteint son bureau à 20h le soir pour aller manger ses spaghettis, ben c'est pas très drôle non plus. C'est beaucoup plus marrant de John Fante. Voilà, ça, c'est des personnages qui sont excitants. Et je pense que ça fait davantage aimer la littérature, notamment aux jeunes. Moi, je sais que, par exemple, Fante, j'ai eu affaire dans ma vie à beaucoup de jeunes qui ne voulaient pas lire. Ça n'a aucun intérêt, etc. Bon. Toujours, je leur mettais, tiens, lis Mon chien stupide, Demande à la poussière. Quand ils avaient un Fante entre les mains, et en plus, tu sais, il n'est pas fréquentable, le mec. Il passait sa vie à être bourré dans les rues de Los Angeles, on l'a ramassé dans les caniveaux. C'était vraiment la sale bête absolue. Il disait, ah bon, c'est beaucoup plus excitant que Voltaire dans son château.
Oh, il couchotait un peu avec sa nièce.
Oui, mais il n'en a pas laissé des traces immortelles. Oui, il couchotait, oui.
Didier Decoin, le talent, probablement, n'est pas transmissible. Ce qui est transmissible, c'est un savoir-faire. Et finalement, est-ce que ça n'est pas ce qu'il y a de pire, la transmission d'un savoir-faire? C'est-à-dire qu'à la fin, quand on a un savoir-faire, on n'a qu'un savoir-faire.
On n'a qu'une technique. Ça n'a strictement aucune espèce d'intérêt. La technique, il faut pouvoir s'en passer, il faut pouvoir l'oublier. Et les plus beaux films et les plus beaux livres sont les films et les livres qui ont abdiqué toute technique. Vous lisez Belle du Seigneur au départ. Si on veut faire un projet, Cohen dit, je vais écrire Belle du Seigneur. Alors, ça va être tant de pages. Etc. On dit, mais attendez, c'est chiant votre truc. Non, faites surtout pas ça. Bon, et ça donne le chef-d'œuvre que l'on sait. Et en cinéma, c'est pareil.
Pour finir, Didier Decoin, le secret professionnel des écrivains, fils de cinéaste et donc de vous, n'est-ce pas plutôt ce qu'on désapprend?
Si, mais c'est ce qu'on désapprend avec l'amour de l'avoir appris d'abord, ou d'avoir découvert. Il faut avoir cette fascination de la découverte. Il y a une chose, une anecdote qui me ravit, qui concerne Hemingway. Hemingway se promène un jour, enfin, c'est une partie de pêche avec Howard Hawks. Et Hawks lui dit, tu sais, Ernest, j'aimerais bien adapter un de tes livres au cinéma. Et Hemingway dit, non, moi, je suis écrivain, on n'adapte pas mes livres, etc. Et l'autre dit, si, t'as écrit un truc qui s'appelle, En avoir ou pas, et ça ferait un bon film. Et Hemingway hurle, dit, pas du tout, c'est mon plus mauvais livre, c'est une catastrophe, je l'ai écrit pour payer mes impôts, etc. Ne touche pas à ce truc-là. Howard Hawks s'obstine. Et finalement, Hemingway dit, bon, écoute, je veux bien essayer. Et il fait une adaptation qui était, paraît-il, une crotte épouvantable. Lui-même en pleurait de désespoir. Mais tu vois, je te l'avais dit, Howard, c'est nul. Et Howard Hawks a dit, c'est génial. Il dit, mais on va demander à un autre écrivain. Mais non, les écrivains savent pas adapter, dit Hemingway. Et il est allé chercher Faulkner. Et ça a donné Port de l'angoisse, qui est bon. Mais Faulkner a commencé par tout casser. Il a dit, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme. Moi, je veux savoir comment ils se sont rencontrés, pas comment ça avance leur histoire d'amour. Et voilà, je suis touché que Hemingway ait refusé, lui, le principe de l'adaptation, alors qu'il avait besoin d'argent à l'époque.
C'était Secret professionnel, le 251e. La semaine prochaine, je parlerai du secret professionnel du Mobilier National. Réalisation Clotilde Pivin, attachée d'émission Daphné Abgral, prise de son Pierrick Charles, recherche INA Aude Vassan. Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.